Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. A tout de suite.
BFM Business présente l'émission qui vous sort de votre boîte. Happy Boulot, le mag, Lorraine Boumeau.
Bonjour à tous, bienvenue dans votre magazine dédié à la vie de bureau, au RH et au management. Cette semaine, on se pose la question de notre rapport au travail. Attention au désengagement des équipes et des managers. C'est ce que nous dira Bruno Mettling, notre expert. Il est le président de Topix, un cabinet de conseil en stratégie, mais aussi un ancien DRH, notamment de Orange. Attention aussi à comment attirer les jeunes, les 18-30 ans, comment construire votre marque employeur. J'ai posé la question à deux experts des médias. Digitaux, c'est Valran Moulet-Berthaud, le fondateur du Crayon, et Harold Gardas de Com. Ils vous donneront leurs conseils pour construire une marque efficace et réussir vos recrutements. Attention, petit teaser, il faudra être réactif quand vous recevrez des candidatures. Et puis, dernier conseil de notre émission, ce sera comment limiter le turnover dans vos équipes avec l'aide de la technologie. C'est une solution que Maxime Cariou a développée, le fondateur de Top. L'IA, la Big Data, le Big Data au service de la rétention. C'est tout de suite dans Happy Boulot, le mag.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. L'exécutif de la semaine.
Et on commence par une question quasiment philosophique. En 2022, quel est notre rapport au travail? Pour répondre à cette interrogation, on est avec Bruno Mettling. Bonjour Bruno.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur de Topix, un cabinet de conseil en stratégie et aussi ancien DRH, notamment chez Orange. Avec vous, on va se demander pourquoi il faut s'intéresser à notre rapport au travail et notamment pourquoi il faut faire attention au désengagement, un sujet sur lequel on vous entend beaucoup. Mais avant toute chose, vous me disiez en préparant cette émission qu'il faut faire attention avant toute chose, de savoir de quoi on parle, notamment quand on parle des cadres, faire une dichotomie importante entre les cadres qualifiés et les cadres non qualifiés quand on parle de ce rapport au travail et de ce désengagement. Expliquez-nous ce que vous voulez dire.
Ben, ce que je veux dire, c'est qu'on a toujours tendance à aborder les problèmes de travail, les problèmes d'engagement, les problèmes d'emploi en France de manière globale, comme si le marché du travail, comme si les situations en termes d'emploi étaient toutes comparables. La réalité, c'est qu'il faut de plus en plus avoir une approche qui différencie effectivement des catégories d'emplois pour pouvoir répondre avec pertinence. Et en particulier, moi, ce qui me frappe ces dernières années, c'est que quand on regarde la France de 2000-2010 jusqu'en 2020, il y a une formidable accélération du marché du travail, une formidable création d'emplois qui a été beaucoup portée par le segment qu'on appelle des cadres, que moi j'aime mieux appeler l'emploi qualifié. Et ces segments-là qui a porté les dynamiques d'emploi, qui a porté les dynamiques de mixité sociale grâce à l'accès à l'emploi, etc. Or, ce segment-là, et c'est ça ma préoccupation, il montre un certain essoufflement, certaines limites, à la fois parce que les cadres, les managers sont de plus en plus fatigués d'un certain nombre de situations, à la fois parce que les dernières enquêtes, comme par exemple sur l'absentéisme, montrent que pour la première fois, l'absentéisme est tiré par la situation justement des cadres. C'est eux qui tirent le niveau d'absentéisme, c'est une chose qu'on n'avait jamais vue dans notre pays. Donc il y a à la fois, si vous voulez, un formidable moteur de la croissance des emplois, de la dynamique des marchés du travail, de la transformation de notre pays qui a été portée par l'emploi qualifié et qui est en train de s'essouffler. Et ça, je trouve qu'on n'en parle pas assez quand on parle de la situation du marché du travail, de la situation de l'emploi.
On parle beaucoup du désengagement des équipes, mais effectivement, ce désengagement, il est aussi porté par ces emplois qualifiés, par ces cadres. Comment il se matérialise? Comment vous l'observez? Comment les gens avec qui vous travaillez vous font remonter la réalité du terrain?
Ben, je crois que ce qui remonte dans beaucoup d'enquêtes, c'est une certaine fatigue des cadres, parce que les cadres, il faut le rappeler, hein, le manager, c'est souvent le visage et la voix de l'entreprise chaque matin quand il prend une équipe en main, quand il prend l'équipe en charge. Et donc, ce cadre est celui qui porte toutes les tensions de l'entreprise. Donc, dans les périodes de crise, où il faut par exemple basculer du jour au lendemain des milliers de collaborateurs en situation de télétravail, quand l'entreprise, parce que ça redémarre, met, j'allais dire, une pression importante sur les résultats, c'est au cadre à qui elles s'adressent. Donc ces gens-là vivent toutes les tensions d'entreprise, et donc au bout d'un moment, ils expriment par rapport à un certain nombre de conditions de travail, par rapport à un équilibre vie privée-vie pro, par rapport à des situations aussi de prélèvements sociaux qui se concentrent beaucoup sur cette catégorie de cadres qui ne bénéficient pas de tout un certain nombre de mécanismes de solidarité, et bien c'est vrai qu'aujourd'hui, ils expriment un certain sentiment de lassitude qui se manifeste, encore une fois, je citais le petit absentéisme, il y en a d'autres, par un certain désengagement. Par exemple, on n'a jamais vu autant de jeunes à qui on propose de devenir manager, de devenir cadre, et qui refusent. Ça, c'est un élément totalement nouveau pour ma génération. Devenir cadre, devenir manager, c'était quand on était dans une équipe, c'était le Graal. C'était un objectif absolument central. Ben là, quand tu vois le poids des responsabilités, la pression qu'il y a, la tension qu'il y a autour de ce métier, les relations avec les équipes, un certain individualisme aussi qui gagne, le collectif de travail, hein, ben quand il voit tous ces éléments-là, quand il voit qu'il croule sur les reporting, les contrôles et les tâches qu'on lui confie administratives, et qu'il n'a pas beaucoup de temps pour s'occuper des équipes, eh ben, il dit non à cette promotion à la situation de cadre, ce qui est assez incroyable, encore une fois, pour tous les observateurs de marché du travail. Donc voilà, c'est un point sur lequel il me semble important d'insister par rapport aux auditeurs. Attention, entreprise, chef d'entreprise, DRH, soyez vraiment attentifs à la situation des cadres, et notamment des cadres de proximité. Ils ont porté toute cette période de crise de tension de manière très forte, et ils expriment de plus en plus une certaine lassitude. Il faut aussi s'occuper d'eux.
L'exemple que vous avez donné des jeunes gens qui ne veulent plus devenir cadre, c'est même pas du désengagement, c'est du non-engagement. C'est même une nouvelle forme d'attitude qu'on observe. Un mot pour peut-être finir cet entretien, l'introduction avec vous, Bruno. On est dans plein contexte de la réforme des retraites. Justement, quelle est la perception, quel est notre rapport à la retraite? Est-ce que vous observez que les choses ont changé depuis l'époque où vous étiez DRH? Est-ce qu'il y a peut-être un rapport différent à la retraite entre les cadres et les non-cadres?
Bah, c'est exactement un très bon exemple. À l'époque, pendant les dernières années, il y avait l'AGIRC et l'ARCO. Donc les cadres étaient identifiés aussi grâce à un complément. Ils cotisaient, bien sûr, plus que d'autres catégories de collaborateurs, mais l'entreprise cotisait à leur côté et il y avait, si je puis dire, un certain nombre d'éléments qui leur étaient reconnus de par leur situation de cadre. C'était la fameuse caisse des cadres de retraite. Aujourd'hui, tout ça a été fusionné, tout ça a disparu. Donc, c'est vrai qu'un des grands identifiants du statut de cadre a disparu. Donc, ils ont aussi ce sentiment de banalisation. Par rapport à leur retraite, c'est vrai qu'ils ont une certaine inquiétude parce que les logiques, et on peut le comprendre, de transformation des retraites, c'est effectivement plus de durée de cotisation, plus d'efforts financiers, proportionnels évidemment au salaire, pour à l'arrivée voir les retraites les plus significatives, souvent écrêtées et le pouvoir d'achat maintenu pour les retraites les plus modestes. On peut en comprendre la logique. Le problème qu'ont les cadres, c'est qu'ils estiment qu'ils ont beaucoup investi, beaucoup travaillé, qu'ils se sont formés, que de plus en plus ils doivent, en cours de carrière, changer deux ou trois fois de métier, revisiter leurs compétences, et ils disent, à l'arrivée, est-ce que tous ces efforts seront suffisamment reconnus lorsque j'arriverai à la retraite? C'est un certain nivellement auquel ils assistent, un certain écrasement de la hiérarchie des salaires et donc des retraites, et tout ça, évidemment, peut contribuer au désengagement dont on parlait tout à l'heure.
Voilà, la boucle est bouclée. Merci beaucoup Bruno Mettling pour ce propos introductif et zoomé, voilà, vous l'avez entendu, sur cette distinction qu'il faut faire quand on parle de l'emploi qualifié et dans notre rapport au travail, des ruptures qui existent et qui parfois viennent brouiller une analyse économique ou sociale qu'on entend beaucoup dans les médias. Merci Bruno, je rappelle que vous êtes le président de Topix, un cabinet de RH, un cabinet de stratégie, notamment RH, mais aussi un ancien DRH.
BFM Business, Happy Boulot, le mag, Better Together.
Better Together, on va s'intéresser à la génération Z et la génération Y. Pour ça, j'ai convié deux experts des réseaux sociaux et deux experts de la vidéo, notamment pour construire votre marque employeur et cibler un peu mieux les gens que vous essayez de cibler en recrutant. Notamment, c'est Harold Gardas, le cofondateur de Com. Bonjour Harold.
Bonjour.
Et Valran Moulet-Berthaud, le fondateur du Crayon. Bonjour Valran.
Bonjour Lorraine.
On va se dire tu dans cette émission parce que je ne vais pas vous mentir, on se connaît déjà avec Harold et Valran parce qu'on a déjà travaillé ensemble sur des sujets de recrutement, notamment dans le cadre de BFM Business avec vous. Vous nous suivez peut-être en direct à midi tous les jours. Et donc on va se demander quelles sont les caractéristiques des générations Y et Z dans leur rapport au travail. Et pour ce faire, on est obligé de parler de branding. De branding, quelles sont les clés de la communication de la marque employeur? Alors je voudrais vous demandez chacun nous donner un exemple d'une vidéo que vous avez fabriquée, vous et vos équipes, qui vous semble incarner les clés du succès et de ce qu'il faut véhiculer sur Internet. Harold, est-ce que tu veux commencer?
Ok, écoute, du coup, bah, assez marrant qu'on parle de ça, puisque donc la première vidéo de présentation de Koum sur les réseaux, ça a été une vidéo de présentation de Koum où je prenais la parole face caméra. Donc là, il y avait vraiment une personnification avec le moi qui identifiait Koum et sur lequel on a eu des super retombées, puisque ça changeait un petit peu des contenus qu'on pouvait voir, notamment sur LinkedIn, sur lequel on est assez actif, et qui permettait de faire transpirer l'entièreté des valeurs qu'on a chez Koum. Donc c'est le côté un peu fun, le côté un peu authentique, le côté décalé. Et c'est un contenu qui a très bien marché, puisqu'on a eu énormément de candidatures. Donc au niveau de la marque employeur, on a vraiment réussi à ce que ça fonctionne. Et au niveau des leads entrants, donc des clients qui se sont intéressés à l'activité de Koum, ça a aussi très bien fonctionné. Donc je pense que ce cas d'usage était hyper intéressant.
Et chez toi, Valent ?
Nous, c'était juste avant l'été. On avait un besoin de recrutement sur différents postes du crayon. D'ailleurs, on était sur BFM Business pour en parler aussi.
Et on s'est rencontrés comme ça à Vivatech.
Exactement. Et on a réussi aussi à avoir beaucoup de candidatures grâce au fait que donc mes trois autres associés, Antonin, Sixtine et Jules, ont aussi des comptes de réseaux sociaux très développés. Et on a tous partagé des stories. En fait, on montrait tout notre cadre de travail, toute notre équipe. Et en fait, c'était vraiment extrêmement brut, en fait, très, très peu préparé, on va dire, très peu chiadé, comme on dit dans la vidéo. Et en fait, ça nous a permis en fait, de montrer en fait, tout l'envers du décor et toutes les personnes qui y travaillaient pour que les personnes puissent se projeter en fait, travaillant simplement en fait, dans notre écosystème. Et ça nous a apporté énormément de candidatures et je pense que ça nous a apporté plus de candidatures que les posts LinkedIn ou les posts sur les différents réseaux sociaux qu'on avait fait. C'est ces stories-là qui, du coup, créent un grand engagement parce qu'on s'y sentait, quoi. On avait l'impression de pouvoir y être.
Alors, quand on s'engage, quand on montre son visage, quand on incarne sa boîte, on s'expose aussi à devoir incarner et porter les valeurs de la boîte. Est-ce que vous avez des exemples dans vos clients ou dans les gens que vous observez, que vous surveillez, de boîtes, de patrons, de patronnes qui font preuve réellement d'engagement à travers des actions concrètes et qui arrivent à les mettre en images sur des vidéos, sur des interviews ou peut-être même en son, dans des contenus de podcast? Est-ce que vous avez comme ça des exemples à partager avec ceux qui nous écoutent?
Nous, on a un entrepreneur avec lequel on travaille pour sa relation presse et son personal branding, parce que c'est une des activités de notre entreprise, et lui a des engagements sociétaux très forts qui vont en fait avec le fonctionnement et sa typologie d'entreprise qui est sur du ménage responsable. On va bien traiter en fait le personnel ménager, et c'est vraiment important pour lui parce que ça, c'est tout un sujet, on va dire, de communication, parce qu'une bonne partie de son marketing est basée là-dessus,
parce que le secteur n'est pas forcément très bien regardé là-dessus.
Exactement, même le secteur est même assez délétère. Nous, il nous a montré les chiffres de ses concurrents, c'est même parlfois assez ahurissant, et donc, du coup on l'aide à sa communication là-dessus, mais c'est à double niveau. Il y a au niveau de ses clients, donc c'est ce que disait Harold Teller, parce que c'est au niveau de ses clients, mais c'est aussi au niveau de ses futurs employés, en fait, qui peuvent voir que du coup, en tant qu'employés ménagers, ils seront mieux traités dans cette entreprise que dans une autre, ce qui lui permet d'avoir des gens potentiellement plus performants, parce que du coup, après, il va y avoir une masse de candidatures, donc un tri plus sélectif, et donc du coup, des employés plus performants.
Dans un secteur pas très sexy.
Dans un secteur pas très sexy en plus, ce qui est là qui est intéressant.
Et toi, Harold, est-ce que tu as un exemple ?
J'ai plein d'exemples de nos clients qui effectivement prennent la parole et vraiment personnifient un peu leur entreprise, notamment dans des secteurs peu sexy, parce qu'ils ont compris que c'est un axe différenciant et que pour le coup, ça marche très bien en marque employeur et côté client. J'en ai plein, franchement. Je pense que ce qu'il faut, c'est bien, encore une fois, trouver le bon équilibre et surtout faire des contenus qui sont les plus authentiques possibles, puisque autant la vidéo qualitative et on connaît un peu avec Home, ça a son importance, mais autant les contenus authentiques comme de la photo, comme ce dont tu parlais au début, Valorant, sur des contenus bruts, mais en fait c'est ce mix de tout qui fait que ça a des contenus qui sont hyper pertinents et qui permettent d'avoir un ROI en fonction de ce qu'on se sera donné qui fonctionne bien.
Alors quand on est jeune, quand on a entre 18 et 30 ans, comment on fait pour choisir l'entreprise dans laquelle on a envie de postuler quand on pense à quitter son job ou quand on rentre sur le marché du travail? Est-ce que vous avez une petite liste maintenant, un top 3 des critères qui sont devenus les normes? Je vous en donne quelques-uns, après on peut trier, mais est-ce que par exemple la semaine de 4 jours, c'est devenu quelque chose qui vous semble vraiment inéluctable? Est-ce que le télétravail, est-ce que le salaire, c'est toujours aussi important? Si vous deviez me faire un top 3 ou un top 6 avec vous deux, qu'est-ce que vous me diriez?
Écoute, on a fait un documentaire qui s'appelle Work in Progress, où on a parlé de toute la thématique.
Super documentaire.
Merci beaucoup, c'est adorable. Toute la thématique business et salariat. Et ce qui ressort vraiment, c'est que la génération Z et Y ne cherche plus qu'un salaire, ça c'est une évidence. Il y a toute une question de contexte et de cadre dans lesquels ils vont pouvoir évoluer. Donc c'est, est-ce que les bureaux sont beaux? C'est un vrai critère de sélection. Est-ce que les employés sont des personnes avec qui je vais pouvoir passer du temps en dehors du boulot? Est-ce que je peux faire du télétravail ou non? Donc t'as ce paramètre qui est quand même hyper important, et t'as aussi la gestion de leur poste comme une carrière et non comme un poste à part entière. Ils ont vraiment cette vision de se dire, est-ce que en interne ou ailleurs, je vais pouvoir capitaliser sur mon expérience pour évoluer rapidement, encore une fois, dans l'entreprise ou ailleurs. Et il y a vraiment cette vision de projet que les entreprises ont intérêt à vraiment intégrer, non pas de poste, mais de projet, pour pouvoir essayer de maximiser les chances de recruter des profils comme eux.
Tout ce qu'elle dit est vrai, donc je ne vais pas en rajouter là-dessus. Moi, j'ajouterai un facteur que je trouve très peu mentionné et que je trouve super intéressant. C'est ça base un peu d'une étude américaine où ils avaient fait écrire et ils avaient fait des travaux extrêmement exigeants et très bien payés à des étudiants. Mm-hmm. Mais en revanche, ils déchiraient leurs travaux et ils leur demandaient de recommencer indéfiniment, alors qu'ils étaient payés pour le faire. Et ils ont demandé jusqu'à quand les gens allaient tenir. Et en fait, les résultats étaient sans appel. Ça rendait fou les gens, même s'ils étaient payés pour le faire. Et en fait, je pense qu'il y a énormément de ça. Et je pense que c'est un des problèmes et un des freins pour bien recruter dans les grands groupes. C'est la sensation d'avoir un impact, en fait, que ce qu'on fait est très concret, que ça a des variables et des conséquences sur le business global. Et je pense que c'est un des avantages comparatifs incroyables des startups par rapport aux grands groupes dans le recrutement. C'est que même si parfois les avantages sont moins bons sur le comité d'entreprise, parfois même sur les salaires ou sur des stock options pour des métiers plutôt de manager, il y a un avantage incroyable sur le fait que ce qu'on a fait dans sa journée, le lendemain ou une semaine après, on va sentir les conséquences et l'impact. Et je pense que ça, ce n'est pas une question de sens d'un point de vue plutôt RSE, hein, c'est même une question presque humaine d'avoir eu l'impression d'avoir été utile en fait, à l'entreprise. Et c'est ce qu'on peut retrouver dans beaucoup de groupes humains, en fait, c'est cette sensation d'utilité qui nous fait adhérer aussi au projet. Et nous, c'est un des retours qu'on a énormément au sein du Crayon, où on essaye le plus qu'on peut de responsabiliser chaque membre de l'équipe, où en fait, chaque personne a un droit de regard quasi final sur certaines des décisions, évidemment à l'échelle de la hiérarchie de la boîte. Mais je trouve que c'est vraiment un axe sur lequel les entreprises pourraient travailler.
Je vais reprendre et tirer ce fil de la RSE que vous abordez à BFM Business. On reçoit beaucoup d'entreprises, beaucoup de grands groupes qui sont honnêtement concernés, qui veulent avoir une meilleure stratégie RSE, qui ont des gros budgets pour le faire, etc. Mais on sent bien qu'il y a une énorme dichotomie entre leur vision de la RSE et celle des jeunes gens qu'ils essayent d'attirer avec des politiques, avec des budgets RSE forts. Qu'est-ce que vous sentez que les grands groupes, les grosses boîtes, certains de vos clients ne comprennent pas, ne perçoivent pas du rapport à la RSE des 18-30 ans.
Je pense...
Sans être dans une guerre boomer, Gen Z, Gen Y.
Bien sûr.
Non, mais tout en parlant, en conseil aux entreprises qui nous écoutent.
Moi, je pense qu'il y a c'est à deux niveaux. Il y a le premier niveau, c'est au niveau on va dire, de la boîte dans son entièreté. Il y a des boîtes dont de toute façon la typologie par leur business model initial n'est pas vraiment RSE. Mmh. Et ces entreprises-là, c'est très compliqué d'aller changer le business model. Celles qui le peuvent ou qui peuvent le dévier légèrement, c'est leur meilleur choix à faire pour attirer les jeunes talents. Est-ce qu'elles sont prêtes à le faire pour attirer les jeunes talents? Ça, c'est leur décision et ça les regarde. En revanche, clair et net que de toute façon, ça va être un truc qui va être énormément scruté. En revanche, là où il y a une zone d'action pour n'importe quelle entreprise, même celle dont le business model initial n'est pas RSE, c'est le fait de mener des petits projets ou même des projets de moyenne taille en interne qui, elles, pour le coup, ces projets-là pourront justement avoir cet impact RSE. Ça peut être monter des fondations, monter des associations, monter des incubateurs, faire de l'intrapreneuriat, être en fait sur le terrain, parce qu'une grande entreprise, elle touche un tel écosystème qu'en fait, on peut réussir avec ce tel écosystème à amener plein de petits projets d'amélioration RSE au sein de cet écosystème, même si le business model de base, et je pense à des entreprises notamment pétrolières par exemple, reste des énergies fossiles. Mais il y a quand même beaucoup de gens dans la chaîne dont on peut améliorer le quotidien grâce à la RSE.
Et Rol, t'es d'accord? Comment on fait ça sans faire du greenwashing?
Alors, il faut trouver justement le bon équilibre, parce qu'on peut vite passer sur un côté greenwashing. Je pense que ce qu'il faut, et dans les plus petites structures comme les nôtres, c'est vraiment essayer de comprendre ce qu'attendent les salariés et aussi nous, en tant que fondateurs, savoir ce qu'on a envie aussi. Et typiquement, ce qui peut être activable, c'est aussi donc des projets qu'on mène à bien dans le cadre de la RSE. Typiquement, on veut ouvrir un média dans lequel on va uniquement recevoir des clients et des entreprises qui sont portés sur des projets RSE. Donc c'est comment est-ce qu'en interne, que ce soit dans le cadre de leur travail ou des side projects, ils vont pouvoir se dire je participe à développer une partie de mon entreprise qui n'est pas forcément dans ce secteur de prédilection, mais sur lequel on va y mettre un petit bout de nez. Et en fait, c'est juste ça qui suffit. C'est pas une question de dosage et de faire des heures et des heures aux côtés de la RSE. C'est simplement de se dire ok, je sais que mon entreprise fait attention à ça et ça me va. Après, il faut effectivement pas rentrer dans le côté greenwashing qui peut desservir et qui est une réalité aussi de marché. Une réalité de marché, ouais.
Et qui se sait toujours, à la fin. On a des suffisamment bons journalistes en France pour que ça se sache toujours. Clair.
Justement, le mot de la fin, l'accès à la formation, il est facilité, notamment, c'est concrètement plus facile de trouver l'info, on vient de l'évoquer, de comparer, et notamment quand on postule, le mot de la fin sera pour les recruteurs, les recrutés, on peut postuler plus facilement et rapidement à plein d'offres d'emploi, notamment un peu plus proche de l'entrepreneuriat. Un conseil pour les recruteurs dans ce monde plus transparent où tout se sait, qu'est-ce qu'on ne dit pas assez? Qu'est-ce que vous aimeriez dire que vos prospects, vos clients ne vous posent pas assez, qui est difficile d'aborder?
Alors là, c'est pas forcément une terme, en termes de communication, mais un vrai, vrai conseil, c'est d'essayer de raccourcir, c'est évident, mais de raccourcir les délais, les processus de recrutement. Ouais. Parce que plein de fois, on vient nous voir en nous demandant des contenus de marque employeur donc pour se mettre en avant, etc. Ça marche, il y a énormément de candidatures, sauf que les délais sont de 3
vite,
à 4 mois.
Ça marche très vite. Typique.
Franchement, honnêtement, sur une semaine glissante, il commence à y avoir des candidatures, parce qu'un impact, on le sait, sur des canaux tels que LinkedIn, on peut avoir un flux de candidatures assez important. Par contre, si derrière on les traite en 3 ou 4 mois, une génération qui est la génération Z, où ils binge-watch, où ils ont tout rapidement, s'ils doivent attendre 3 mois pour pouvoir avoir un poste, c'est trop long. Donc ce qu'il faut, c'est réduire ces délais de recrutement. Ça, c'est un premier impératif. Et aussi, je termine là-dessus, il y a un impératif, il y a une tendance de marché qui s'est pas inversée, mais qui s'équilibre un peu plus, où avant les candidats devaient faire en sorte de se différencier face à un flux nombreux de candidatures, quand maintenant il y a aussi les entreprises à se différencier par leur communication pour pouvoir aussi aller récupérer les meilleurs candidats. Et ça, je pense qu'il faut bien intégrer et le prendre en compte dans la gestion de son recrutement.
Marché de candidats, réduire les durées de traitement de candidatures. Et toi, Valérie, le mot de la fin.
Tu me fais la passe des Harold, justement, parce que c'était le truc que je voulais aborder, c'est sur la différenciation. J'aimerais juste prendre un exemple, mais c'est les clubs de football. Les clubs de football, on peut les citer et on peut donner des caractéristiques en fonction de ces différents clubs, et ça ne seront pas les mêmes entre les différents clubs de foot. Je pense que les entreprises doivent faire la même chose, quitte à choisir une stratégie à s'y tenir, se redéfinir quelles sont nos valeurs. Et nos valeurs, c'est pas la bienveillance. Personne n'a une boîte malveillante. Les valeurs, c'est des choses qui sont vraiment ancrées. Donc ça va être pro-innovation ou à l'inverse pro-sécurité. Ça peut être différentes choses. Mais en tout cas, ces valeurs-là, il faut pouvoir réussir à les afficher, à les rendre clairement visibles et lisibles pour les candidats et permettre, grâce à cette lisibilité des valeurs, d'avoir en fait un fit entre des candidats et des entreprises, parce que ce fit-là, il se fera parce que le candidat et l'entreprise ont ces valeurs-là en commun, ce qui va aussi disqualifier des candidats, mais qui sont de toute façon des gens qui n'auraient pas eu un bon comportement ou un bon match au sein de l'entreprise. Et je pense que réussir à avoir des valeurs qui peuvent cliver suffisamment pour qu'il y ait des gens qui ne veuillent pas juste parce que c'est ces valeurs-là, c'est un bon indicateur qu'on va justement trouver des gens qui vont en être fans. Elon Musk, je prends cet exemple-là, est extrêmement clivant. Il y a des gens qui donneraient tout pour bosser auprès de lui, des gens qui feraient tout pour ne jamais bosser auprès de lui. C'est un bon exemple de justement ce qu'on peut faire.
Voilà, travailler votre com comme un club de foot, votre com et votre culture comme un club
exactement,
de foot.
Culture.
Réduisez les délais de traitement des candidatures RH. Ça, c'est les deux conseils de nos deux experts d'Apiboulot. Harold Gardas, merci beaucoup, cofondateur de Com, et Valent Moulet-Berthaud, le fondateur du Crayon et aussi d'Élise. Vous vous souvenez peut-être de cette app qui a permis de s'informer sur les présidentielles. On va parler de comment réduire le turnover de vos équipes avec la tech. Restez avec nous.
BFM Business. Happy Boulot, le mag. Business Case.
Limiter le turnover dans les entreprises, c'est peut-être votre problème et peut-être qu'on a la solution aujourd'hui dans Happy Boulot. Bonjour Maxime Cariou.
Bonjour.
Vous êtes le fondateur de la société TOP, T-O-P, pour Team Opportunity Prediction, que je prononce autant que je peux avec l'accent français. Avec vous, eh bien, ce que vous apportez, vous et votre équipe, c'est peut-être un outil de prédiction qui peut aider vos clients à limiter le départ plus ou moins spontané des collaborateurs. C'est quoi votre technologie ?
Alors, en effet, donc, on ne met pas du tout en question tout ce qui est QVT et sens au travail. Au contraire, on abonde complètement dans cette dynamique-là et dans tous ces préceptes. Mais par contre, en effet, on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, les collaborateurs qui démissionnent sont assez souvent les collaborateurs qui sont contents. Donc ça, ça fait partie des phénomènes aussi paradoxaux.
Les collaborateurs qui sont contents.
Oui, tout à fait. Ça, c'est les analyses des grandes sociétés, des grandes RH, hein, en règle générale à l'international. Et donc, nous, on amène une solution justement qui permet de faire du prédictif et de comprendre un peu mieux ce qui se passe. Et à partir du moment où on sait grosso modo ce qui va se passer, du coup, d'amener une suite d'actions préventives et correctives aux managers au juste à temps pour mieux gérer et puis pour mieux accompagner ses équipes.
Mais voilà. Alors, dedans, c'est quoi ? C'est des algorithmes, c'est de l'IA, c'est du big data ? Qu'est-ce que c'est concrètement ?
Ça fait un peu mal à la tête, en effet. C'est de l'IA en machine learning avec beaucoup de data science. Et c'est des algorithmes divers qui s'imbriquent les uns avec les autres.
Et qui tournent sur quoi comme données ?
Et qui tournent alors, sur les données communes du SIRH. Donc, on est une solution qui s'intègre aux SIRH les plus répandus sur
vous
le marché.
Vous branchez sur typiquement des suites
SAP,
des
CRM. Du SAP, du HR Access, des softs, des gros du marché en fait.
Des gros SIRH.
Voilà. Et donc pour répondre justement à votre question, donc on part des données classiques RH, d'un historique de données le plus important possible. Et puis on fait tout un tas de scrapping avec nos robots. Justement pour amener un maximum de données du marché au niveau de la France, au niveau de l'international et pouvoir prendre les meilleures décisions au bon moment.
Je savonnais en parlant de CRM. Est-ce que justement, on pourrait imaginer que votre technologie, elle est branchable sur les CRM au même titre qu'elle l'est actuellement sur les SIRH pour anticiper la satisfaction client? Est-ce que c'est les mêmes sous-jacents?
Alors, il y a des technologies équivalentes qui sont en train de se mettre en place sur le marketing, en effet, c'est très intéressant. Sur le recrutement aussi, mais peut-être à tort, parce qu'on voit que ce qui s'est passé sur le recrutement en IA, c'était pas forcément bien géré, parce que l'algo, il faut le superviser, il faut le suivre, il faut s'assurer qu'il reste éthique. Ça, c'est un enjeu important.
Éthique parce qu'il y a des données qu'on n'a pas le droit d'aller malaxer.
Voilà, c'est ça. Et puis parce que, au fait, l'algorithme, il va faire une restitution. L'IA, il réfléchit beaucoup. Et puis, il ne faut pas qu'il déraisonne. Et donc, il faut le superviser, il faut l'accompagner. Il faut s'assurer que les décisions qui en ressortent sont toujours bonnes et vont amener les bonnes décisions par l'être humain aussi.
Voilà. Bon, une société définitivement technologique, et je vous attrape au vol, littéralement, parce que dans quelques minutes, à la fin de cette émission, vous partez prendre un avion pour aller rejoindre le Web Summit à Lisbonne. En deux, trois mots, qu'est-ce que le fondateur de start-up comme vous attend cette année de ce gros rendez-vous européen, on peut le dire comme ça, de l'économie numérique et des nouvelles technologies? Qu'est-ce que vous allez, qui vous allez voir, qu'est-ce que vous allez chercher dans un événement comme ça?
Alors en effet, on découvre beaucoup de choses au fait, parce qu'on avait déjà des contacts avant d'y aller. Finalement, on est rentré au fait dans la délégation French Tech qui nous a proposé aussi d'y aller. Et au fait, on se rend compte qu'on va rencontrer le monde entier. C'est-à-dire qu'on a des rencontres avec en effet des Américains de New York, des Brésiliens qui viennent sur des thématiques de retail, en fait, qui a un des métiers qu'on adresse aussi avec Top. Et puis des gens du Middle East. C'est vraiment très... Il y a toute une émulsion autour de nos sujets, ce qui fait qu'en fait, on adresse aujourd'hui le marché français, mais on n'est pas du tout fermé à adresser d'autres clients dans le monde, puisqu'en fait, notre technologie le permet aussi.
Le mot de la fin, Maxime, est-ce que les startups françaises dans les RH Tech, les HR Tech, la Tech RH, sont pionnières, notamment de ce management augmenté? Est-ce qu'on est bien dans la course entre startups internationales?
Alors, très bonne question, justement. Alors, on est en train de jouer aujourd'hui avec des Américains, des Canadiens et des Israéliens qui n'ont pas tout à fait les mêmes approches que nous, hein, qui sont que dans l'approche statistique, d'autres qui sont beaucoup plus portés sur l'IA, etc.
Alors c'est quoi la French Touch?
Et la French Touch, c'est le RGPD. Voilà, c'est le fait d'être square sur la RGPD et sur nos usages, d'accompagner aussi un cadre légal qui va se mettre en place d'ici 2025 avec l'Europe. Voilà, ça c'est important de le souligner. Et puis en fait, on va peut-être être plus près que les Américains qui, eux, ne sont pas encore bordés sur le RGPD. Mm-hmm. Et puis, quand nous, on sera prêts, on pourra y aller aussi, sur leur terrain d'expression, sur leur cadre légal qui n'est pas du tout établi, à contrario de ce qu'on connaît sur l'Europe. Et donc on pourra y aller aussi très vite.
Voilà, c'était un petit teaser de ce Web Summit qui a lieu cette semaine, si vous nous écoutez, alors que c'est le week-end, il sera fini, puisqu'il a lieu cette semaine-là, autour du 4 novembre, si je ne dis pas de bêtises. Merci beaucoup, Maxime Cariou. Vous êtes le fondateur de la société Top. Merci pour votre décryptage.
Merci.
Voilà. BFM Business, Happy Boulot, le mag. L'émission qui vous sort de votre boîte. C'était votre